Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ma part, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'oiseaux multicolores, des oiseaux qui refusent de s'envoler vers la lumière. Et figurez-vous que je me suis même vu parmi eux. Il y a de l'être. Cette exclamation a jailli de la poitrine d'un homme il y a bien longtemps de cela. Il avait découvert qu'à travers, au-delà de la diversité des objets qui l'entouraient, quelque chose d'unique se manifestait partout. Il avait décelé quelque chose qui touche à la trame même du monde. Il y a de l'être. Ce jour-là, tout au fond de lui, une clarté palpitante lui a déchiré la conscience, ouvrant en lui une trouée vertigineuse sur une réalité ultime, englobante, suffisante, absolue, omniprésente. Il y a de l'être. Ce jour-là, cet homme a dû se sentir comblé au-delà de toute attente par cette intuition jubilatoire que l'on peut qualifier de mystique au sens propre du terme, puisque mystikos, le terme grec d'où a été décalqué le mot français, signifie qui se rapporte au mystère. Et mysterion, qui a donné mystère, désigne une chose cachée, secrète. Plus exactement, dans le sens de réalité invisible. Oui, cet homme a entreaperçu quelque chose qui était là, mais secrètement. Cela est arrivé il y a plus de 2500 ans, je vais vous donner son nom tout de même. Il s'appelait Parménide. Il vivait dans le sud de l'Italie, une petite communauté grecque. Nul ne sait ni où ni comment cela s'est produit. Était-ce près de la mer? Était-ce un jour d'orage? Était-ce une nuit sous la fraîcheur d'une voûte étoilée, ou plutôt un matin lorsque l'aube s'étire dans ses habits pastels? Pour ma part, je penche pour la nuit, une de ces nuits immenses où le ciel se dévait entièrement, n'interposant plus rien entre lui et ceux qui veulent bien relever la tête. Une nuit qui ne se protège plus de l'intrusion du regard, permettant à l'âme, à la suite de l'œil, de s'élancer d'un trait jusqu'au fin fond du cosmos et d'y respirer l'air vif des émerveillements. Une de ces nuits transparentes où la profondeur dévoilée de ce dans quoi nous sommes ouvre en nous la profondeur inquiète de ce que nous sommes. Depuis la nuit des temps, les hommes essayent de saisir quelque chose de ces expériences confondantes, au cours desquelles une autre dimension d'eux-mêmes et du monde s'est révélée à eux. Ils se sont efforcés de nommer ce qu'ils ont rencontré, de donner un visage à ce qui les a touchés, de mettre en mots ce qui les a traversés. Comment, après de tels moments, ne pas avoir la présence de ne pas voir la présence du sacré partout? Comment ne pas s'extasier devant la magie répandue à profusion en chaque endroit où conduisent le regard et les pas, dans le ciel, les nuages, les animaux, dans les forêts et les fleuves, les marais et les cavernes, le fond impénétrable des océans, la cime inaccessible des montagnes, dans les bourgeons du printemps, la lave des volcans, la naissance d'un enfant. Le divin habite partout, multiple, dispersé, insaisissable, tantôt menaçant, tantôt clément, incompréhensible en tout cas, et non maîtrisable. Alors on cherche à se le concilier, on l'implore, on lui fait des offrandes, on donne un visage humain aux forces de la nature, on en fait des êtres qui, bien que dotés de puissances considérables, présentent des attitudes et des caractéristiques humaines. On leur invente des histoires qui ressemblent aux nôtres. À défaut de pouvoir approcher le divin, on le rapproche de nous. L'arbre généalogique des dieux grecs. nombreux. Divers théismes se constituent ainsi, moins éparpillés, plus élaborés, plus conceptuels aussi, mais toujours pluriels. Je n'ai pas compté, je crois qu'il y en a quelques dizaines. Au sein de cette vision communément admise et largement répandue d'une multiplicité de visages du divin, une autre voie émerge dans la conscience de certains hommes. À une époque où justement le panthéon grec comptait quelques dizaines de dieux, Parménide, encore lui, assurait que l'être est un. Et il précise dans son poème que l'être est inengendré, impérissable, universel, unique, immobile et sans fin. Il n'a pas été et ne sera pas. Il est maintenant tout entier un continu. Prodigieux, je trouve, comme intuition, prodigieux. Et pourtant, 1000 ans avant lui, 3350 ans avant nous, un autre terrien avait déjà eu cette même intuition d'un unique. La beauté de son épouse a traversé les siècles et son nom est parvenu jusqu'à nous. Lui s'appelait Amenhotep, quatrième du nom. Ce pharaon atypique imposa donc le culte du disque solaire, Aton, le dieu universel, l'unique, avec majuscule, celui qui n'a pas son pareil, le démiurge qui recrée le monde chaque matin. Quelles sont nombreuses les œuvres que tu crées, mystérieuses à nos yeux, ô toi, ce Dieu unique dont il n'y a pas d'autre. Splendide est ton lever à l'horizon du ciel, ô vivant Aton, créateur de toute vie. Quand tu t'es levé dans le ciel d'Orient, tu emplis toute terre de ta beauté. C'est le grand hymne d'Aton qui continue. Toi qui donnes le souffle pour faire vivre chaque être que tu crées. Tu mets chaque homme à sa place et tu pourvois à ses besoins. Voir tes rayons, c'est être. Tu es l'existence par toi-même. C'est de toi que l'on vit. Quand on te voit, on dit vivre. Et de ne pas te voir, on meurt. Aton est un dieu vivant, à la fois transcendant et proche de sa création, à laquelle il prodigue sans cesse la vie. Bannissant la foule des autres dieux, Amenhotep IV ira jusqu'à faire détruire les images des anciennes divinités pour ne garder que la forme ronde du soleil, instaurant ainsi la première forme connue de monothéisme. Lui-même abandonnait son nom de naissance pour un autre, Akhenaton, celui qui est bénéfique ou utile à Aton. Son aventure n'a duré que le temps de son règne. Personne ne l'a suivi après sa mort, pas même son fils cadet, Toutankhaton, qui changera son nom en Toutankhamon, très peu de temps après lui avoir succédé. On est presque en famille avec tous ces noms qu'on connaît. Le culte d'Aton, l'unique, disparaît donc en même temps que meurt ce pharaon, considéré à l'époque comme hérétique. Sa sépulture sera délibérément saccagée, son sarcophage profané et les objets à son nom abîmés ou enlevés. Vous voyez, on a vraiment martelé le pharaon sur son char. Le masque funéraire qu'on a retrouvé est amputé d'une grosse partie. Le condamnant ainsi à l'oubli, et lui interdisant tout espoir de renaissance dans l'au-delà, ce qui est évidemment la peine capitale pour les Égyptiens. D'autres voix se sont cependant élevées pour clamer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par exemple, au sein d'un petit peuple obstiné qui a traversé une épopée homérique, inspirée et guidée par son Dieu, avec lequel il a fait alliance. On se souvient du nom d'un de ses premiers visionnaires, Abraham, le père d'une multitude, qui a lutté et prêché sans relâche pour sa foi en un Dieu unique, juste et bon. Abraham, c'est peut-être une nouveauté, ose parler à Dieu. Et chaque fois que Dieu l'appelle, Abraham répond « Me voici ». Et chaque fois, il lui faudra affronter une nouvelle épreuve. Abraham ne se dérobe pourtant jamais. Il est le craignant Dieu par excellence, qui ira jusqu'à obéir à cet ordre effarant de sacrifier son fils Isaac. On sait évidemment que Dieu retient son bras au dernier moment, mais il accepte d'aller jusque-là. On peut s'étonner que des hommes aient eu pareille intuition. Sacrifier ce qui est le plus cher. L'homme tutoie Dieu à présent, et Dieu lui répond, lui révélant même son nom. Le nom de Dieu. À nouveau, comment est-ce que les Juifs ont pu accéder à pareille connaissance intime? Les hommes cherchaient le visage de Dieu, et voilà que c'est Dieu lui-même qui a pris visage d'homme, affirment les chrétiens. C'est Dieu qui est venu tutoyer les hommes. Ceci est la plus ancienne icône connue de Jésus. Elle se trouve au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. Le fait chrétien s'est installé depuis si longtemps dans nos contrées qu'il n'étonne plus guère. Et pourtant, si l'on prend la mesure de chaque mot, cette perspective est tout à fait stupéfiante. J'étais un peu hors décalage. Si on détache les mots, Dieu s'est fait homme. Le christianisme se fonde sur un socle absolument singulier, exclusif, inouï. Un être qui est à la fois Dieu et homme. Un Dieu qui a endossé les habits de l'homme. Mystère insondable s'il en est, le christianisme est mystique dans son essence même. Mystique, mystikos, mysterion, mystère. Avec le Nouveau Testament, nous héritons d'une image radicalement différente de Dieu. À travers ce Jésus de Nazareth, nous le voyons humble, doux, proche, fragile, le très bas, comme dit Christian Bobin. Un Dieu humain, pourrait-on presque dire. Bien entendu, adhérer à cette perception est un pur acte de foi, au sens fort et premier du terme. C'est-à-dire le fait d'accorder de la crédibilité à quelqu'un, jamais à une chose. On ne peut pas faire un acte de foi dans une chose, l'acte de foi c'est dans une personne. Le fait d'avoir confiance en quelqu'un. Confiance vient du latin fides fidei qui signifie, foi vient du latin fides fidei qui signifie confiance. Faire confiance, ça veut dire que je n'ai pas de preuve, mais j'adhère à quelqu'un, je lui fais confiance. J'ai une intime conviction. En quelle personne est-ce que les chrétiens placent leur foi? Qui est ce Jésus? Plus généralement, il me semble qu'ici se pose la question de la possibilité d'une connaissance à propos de Dieu. Peut-on vraiment connaître Dieu? Même ce Dieu fait homme. Les évangiles donnent trois définitions, entre guillemets, si on veut, de Dieu. On y voit que Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est lumière. À nouveau, on pourrait scander les mots. Dieu est amour, Dieu est lumière. Maître Eckhart dira qu'il est néant, Zundel dira qu'il est silence, la plupart des mystiques et des saints se tairont, ou bien ils useront d'un langage absolument insolite. J'ai collectionné quelques expressions. Obscur, lumière. Obscur et lumineux, silence. Ténébreuse clarté ou occulte clarté. Murmure d'un fin silence. Murmure d'un fin silence. Présence absente. Le tout et le rien. Le loin près. Il s'agit d'oxymores en termes techniques, donc des oppositions, des choses qui n'ont pas l'air de pouvoir aller ensemble, des paradoxes. Plus on avance vers Dieu, plus il semble difficile de dire quelque chose. Je m'étais dit, je pourrais m'arrêter ici et on ferait un temps de silence. Que dire? C'est peut-être la meilleure réponse qu'on pourrait donner à cette question, qui est Dieu? Comme vous ne m'avez pas demandé de venir, vous n'êtes pas venu pour que je fasse silence avec vous pendant une heure, je vais quand même me risquer à quelques mots, à commencer par le mot saint, kodesh en hébreu. Dieu est saint et ça signifie qu'il est mis à part, consacré, séparé. Cette perspective de l'altérité de Dieu traverse tout l'Ancien Testament. Dieu est un être à part et nul ne peut le voir. Je ne fais que répéter ce que Leïli Anvar a déjà dit hier. Tu ne pourras voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut même pas prononcer son nom. Personne ne peut connaître Dieu, excepté par le Christ, disent les chrétiens. À nouveau, quand on prend la mesure des mots, le Fils, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Notons que si nous savons par le Christ que le Père existe, nous ne savons pas qui est le Père. La tradition judéo-chrétienne, et ailleurs je constate aussi, musulmane ou d'autres, est donc unanime, Dieu est inconnaissable. Comment d'ailleurs une créature pourrait-elle connaître son Créateur? Pour nous faire une idée un peu mieux documentée de l'ampleur de la question, je vous propose de faire quelques pas en cosmologie, rassurez-vous, rien de bien, le nom est barbare, mais rien de bien compliqué. Juste quelques données. Il manque de la matière dans l'univers. Autrement dit, les scientifiques aujourd'hui ne connaissent que 4% de l'univers dans sa totalité. La matière dite baryonique, la matière que l'on peut connaître par la table de Mendeleïev, ça ne couvre que 4% de tout ce qui existe dans l'univers. Le reste est inconnu. On peut juste en percevoir quelques effets ou connaître cette présence par calcul. En disant par calcul, c'est pas possible, il doit manquer quelque chose quelque part. Ça veut dire en belge, 96%, en français, 96% qui est pas connu. Alors on ne sait pas. On donne des noms étranges, on va parler de matière noire, 23%, on arrive à chiffrer, de matière noire, 73% ou 73% d'énergie sombre, encore plus importante en quantité, une énergie sombre. Et on ne sait rien en dire d'autre pour l'instant. Il se peut d'ailleurs que nous arrivions aux limites du champ qui nous est accessible. À ces extrêmes, nous découvrons en effet des comportements totalement aberrants, par rapport à nous bien sûr, par exemple que les constituants fondamentaux des objets ne sont pas des objets. Que les particules sont liées par un lien étonnant qui traverse l'univers. Deux particules communiquent instantanément d'un bout à l'autre de l'univers. Instantanément, ça veut dire beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, même énormément plus vite, puisque c'est instantané. Instantané. Le temps et l'espace n'ont pas l'air de concerner les particules élémentaires. La direction du temps n'existe pas. Ça peut être dans un... Pour nous, le temps il s'écoule d'un passé vers un futur. Pour les particules, non. Le temps n'a pas de direction, il est indéterminé. Ou encore, la présence de l'observateur modifie les expériences effectuées sur la matière. La simple présence, le fait d'être là ou de ne pas être là, modifie le comportement de ces particules. Voilà pourquoi, nous dit Bernard d'Espagna, un scientifique qui a travaillé au CERN, au Centre européen de la recherche nucléaire, et qui s'est attaqué à la physique quantique, il nous dit qu'on n'a pas accès au réel en soi. Lorsqu'on effectue une démarche scientifique, mais au réel empirique, Voilà pourquoi le réel véritable est au-delà de la physique, métaphysique, au-delà des perceptions que nous pouvons avoir, au-delà des mesures que nous pouvons faire avec les instruments les plus perfectionnés existants ou pouvant être réalisés dans le futur. Pour désigner cette réalité ultime, Bernard d'Espagna utilise une très jolie expression et parle du réel voilé. Si on considère Dieu comme créateur, effectivement, tout vient de lui, ce qui signifie que le temps, l'espace, l'énergie, la matière est issu de lui. Et on peut penser que, à notre échelle humaine, bien sûr, un créateur de la sorte se situe en conséquence, comme tous les créateurs, en dehors de sa création, même s'il s'associe intimement à elle, de la même façon qu'un sculpteur n'est pas inclus dans son œuvre. Avez-vous déjà, je suppose, oui, observé une mouche, un insecte, une guêpe qui s'est aventurée dans votre maison et qui n'arrive plus à ressortir? Parfois, pris d'un sentiment de pitié, on se dit « on va aider cette pauvre bête à retrouver la lumière ». D'ailleurs, elle se colle à une vitre, elle cherche la lumière, et puis la vitre est fermée, elle va glisser indéfiniment, s'épuiser, et recommencer, s'arrêter, halter, recommencer. Si personne ne la sauve, elle risque de mourir. Alors, pris de pitié, on peut se dire « on va essayer de l'aider ». Si vous avez déjà fait ça, c'est parfois exaspérant, parce que la bestiole ne comprend rien à ce que vous faites. Donc, vous essayez de la guider, vous ouvrez une fenêtre, vous essayez de la guider, elle va ailleurs. C'est une autre fenêtre qui est fermée, bien entendu. Vous essayez de la pousser avec un journal, elle va dans l'autre sens, comme si elle résistait. Bref, on se dit, mais je veux la sauver, et elle me met des bâtons dans les roues. Peut-être que nous sommes comme ça, aux yeux d'un autre regard. Nous cherchons la lumière sans savoir comment l'atteindre, et peut-être que quelqu'un nous dit par où aller et qu'on est aveugle, on sourd, on ne veut pas entendre. Les anciens disaient, seul le semblable connaît et comprend le semblable. Il faut être au même niveau qu'un autre être pour comprendre où il est. Et là, l'insecte, c'est pas du tout déméritoire ou je ne sais pas, ou c'est pas du tout péjoratif ou insultant pour lui, il n'est pas capable de voir la situation dans son ensemble comme nous la voyons. Il n'est pas capable de comprendre notre dessein à nous, qui est de le sauver en le portant vers la lumière. Il n'est pas capable, tout simplement par construction. Si jamais une mouche pouvait prendre la tête d'un homme, le cerveau d'un homme, alors il y serait capable, mais ça ne se peut. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Comment? Est-ce qu'on peut au moins en percevoir quelques lueurs? Deux approches qui, depuis très longtemps, Denis l'Aréopagite, je ne vais pas rentrer trop dans des détails techniques, considèrent qu'il y a deux manières d'approcher Dieu. Ce Dieu qui est présent, qui est accessible, il doit pouvoir nous être accessible si Dieu existe. Si Dieu s'adresse aux hommes, nous devons pouvoir l'entendre d'une façon ou de l'autre. De quelle façon est-ce qu'on peut discerner quelque chose de lui? Deux approches. La première est appelée la voie initiatique. Considérons qu'un croyant est un marcheur. Aucun randonneur sérieux n'oubliera d'emporter le matériel nécessaire, sinon il n'ira pas loin. S'initier, c'est s'enquérir d'une carte, s'équiper d'une boussole, étudier les équipements disponibles, choisir sa bouteille, et ainsi de suite. C'est aussi chercher à savoir ce que sont le chemin, la soif et la soifée. La voie initiatique correspond au désir de connaître et de comprendre le voyage. Elle s'appuie sur les sens et sur la raison, et elle passe par l'étude, la formulation, l'explicitation. La seconde voie, la voie dite mystique, correspond au désir d'éprouver et de savourer la randonnée. Cela passe par l'être tout entier, pas une partie de lui-même, et cela procède nécessairement de l'expérience. Celui qui s'y engage cherche à respirer Dieu, à étancher sa soif, à remplir sa bouteille à la source. La quête spirituelle consiste à marcher, non à parler. Pas de jugement sur l'une ou l'autre, bien entendu, chaque voix apporte une connaissance particulière à propos du divin. Examinons-les l'une après l'autre, en commençant par la voie initiatique que j'ai qualifiée de la voie du dire. Selon le mode initiatique, nous pouvons dire quelque chose de Dieu à partir d'un certain nombre de points de vue, par exemple, en premier lieu, les textes sacrés. Ensuite, d'autres êtres que nous nous ont précédés sur ce chemin. Et donc, nous pouvons, en écoutant ou en lisant les autres, les anciens, les maîtres, les saints, on peut découvrir quelque chose à propos du divin. On peut aussi découvrir quelque chose par notre cerveau, en réfléchissant. Sans de nouveau être trop technique, je vous propose une petite incursion à nouveau en cosmologie, avec à la suite de Teilhard de Chardin. On sait que c'est un jésuite, théologien, scientifique, paléontologue, la croisière jaune, là, qui était sur le terrain, et qui a développé toute une approche particulière, une théorie de l'évolution, qui concilie à la fois les acquis les plus récents de la science et qui n'est pas contraire à la foi catholique. Pour lui, le processus de l'évolution a pris une certaine direction. Il y a un sens. Ceci est une image de la NASA, c'est une image bien entendu, puisqu'on se trouve comme en dehors de l'univers, une image depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, 13,7 milliards d'années, avec tous les enchaînements que nous connaissons bien maintenant, qui ont amené peu à peu à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Connaissant cette théorie, Teilhard de Chardin va élaborer une vision qui inclut une loi de complexité conscience. Il constate qu'il y a dans cette évolution une complexification croissante, grandissante, qui aboutit à la conscience. Il considère que le point de départ, il l'appelle alpha, génération du temps, de la matière, de l'espace, de l'énergie. Très peu de temps après, je vais passer sur les détails. La matière n'existe pas comme telle tout au début. Il n'y a que des particules, encore même pas tout à fait des particules élémentaires. Il y a de l'énergie, puis ça se condense, ça se refroidit, ça se dilate et ça se refroidit en même temps. L'univers, il s'expanse, il est en expansion et en refroidissement. Et cela permet à des particules d'apparaître, même pas encore des atomes, puis des noyaux, d'abord des neutrons, des protons, pas encore des noyaux d'atomes, puis des noyaux, il y a les photons, les électrons, etc. Bref, il y a toute une histoire qui aboutit à une matière qui est au départ légère et simple. Les atomes d'hydrogène, d'hélium sont très simples, un électron, un noyau. Et puis ça se complexifie, c'est l'histoire des étoiles. Le Soleil est la troisième génération d'étoiles. Donc ces étoiles ont implosé, naissance et mort au niveau des étoiles aussi. Elles ont implosé, elles ont explosé, elles ont envoyé dans l'espace ce qu'elles avaient conçu dans leur chaudron infernal, où là on recrée des conditions de départ de température et de pression qui permettent d'avoir des atomes plus lourds. On arrive au carbone et toute la chimie du carbone, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça a mis longtemps. Et puis, quelque part, au moins sur notre planète Terre, apparaissent des formes, de la matière qui s'agglomère, qui se rassemble en cellules, qui s'associent. Ces cellules finissent par prendre vie. Je ne sais pas ce que je dis quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand je dis ça. Il faut 6 éléments. Caops, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre pour fabriquer de la vie. On essaie de la refaire en laboratoire avec de l'énergie, avec des éclairs, hein, comme le climat qui se passait, semble-t-il, au début sur la planète Terre, il y a 4 milliards et demi d'années. La vie. De l'atome, des atomes, des molécules, de la matière qui s'associe, qui devient vivante, et qui, après environ 3 milliards d'années, aboutit à de la conscience. À nouveau, si je pèse les mots, de la matière inanimée qui prend vie et qui finit par savoir qu'elle existe. De la matière qui sait qu'elle va mourir. C'est nous. de la matière qui est consciente d'exister. Je sais que j'existe. Je retourne en poussière. Je suis matière. L'autre voie, c'est quand même intéressant, je trouve. Ça ouvre quand même. On a l'air de dire parfois, on est un peu méprisant, disant c'est du rationalisme. Mais c'est quand même, moi, ça me donne des éclairs. Des éclairs. Ça m'oxygène. Ça m'ouvre les perspectives. Le point final, Teilhard de Chardin l'appelle le point oméga. Et il considère que ce point oméga agit comme une espèce de polarisation, de point de polarisation, de pôle, qui aspire, attire à lui toute cette évolution depuis alpha. On sait que l'alpha et l'oméga, c'est les termes par lesquels on a désigné le Christ, qui est l'alpha et l'oméga. L'oméga, pour Teilhard de Chardin, c'est la parousie, c'est la fin des temps, c'est la parousie, donc la réapparition du Christ. La seconde voie, la voie du vivre ou la voie mystique. Nous pouvons capter des effluves du divin à travers un certain nombre d'aspects ici aussi. Le premier, sans doute, c'est la création elle-même. Olivier Clément, ce grand théologien orthodoxe, disait « L'univers est la première Bible ». Effectivement, on peut lire l'invraisemblable, l'indicible dans l'univers. L'univers, en grec, ça se dit « cosmos ». Cosmos signifie « beauté ordonnée ». Beauté, il y a une notion d'ordre. Cosmos, même racine que cosméticos, cosmétique, c'est une beauté ordonnée. Un arrangement qui est organisé pour que ça présente bien, que ça soit beau. Nous pouvons découvrir des choses aussi, bien entendu, par la prière, quelle que soit la forme de prière. Il y en a des dizaines. Ça peut être un chant, ça peut être une parole qui jaillit dans l'instant, une parole qu'on répète, peu importe. Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, se lève chaque jour à 4 heures du matin et passe 3 heures devant le tabernacle. Et il dit... Jésus est vraiment là. Si seulement vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la plus heureuse au monde. Pour ma part, je n'ai pas encore accès à ça. Peut-être que je n'aurai jamais accès à ça. Mais je vois, j'entends chez quelqu'un cette expérience-là. Il y a aussi ce que nous discernons dans le silence. Je reviens à nouveau à Bernard d'Espagna, non pas que ce soit, j'en sois fan, mais il a dit des choses intéressantes. Et ici, il rapporte, dans un entretien à Jean Stone, il rapporte un poème qui a été écrit par une amie de sa maman. « Lorsque ton cœur frémit d'une invisible approche, ne tourne pas la tête. Laisse tes yeux se perdre au loin dans l'espace. Ne cherche pas à connaître cette présence. Peut-être n'est-elle qu'un visage du silence et de la solitude. Ose l'appeler en toi-même. » Et ainsi de suite. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce grand scientifique, qui est rigoureux, qui a un esprit scientifique, en commentant ce poème, dit ceci. Scientifique qui dit « Chaque individu peut avoir une intimité, on est dans le thème, avec quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre biologique ou psychologique, quelque chose qui n'est pas une illusion. » Il y a enfin ce que nous percevons parfois par grâce. Ce que l'on désigne de multiples noms, révélation, intuition, songe, vision, extase, expérience mystique, expérience de transcendance, expérience de sommeil, expérience du numineux. Lumineux est un mot inventé par Rudolf Otto dans un livre qui s'appelle Le Sacré, où il essaye d'analyser, d'étudier le sentiment tremendous, le sentiment de peur, de crainte qu'un être humain peut ressentir face à une immensité qui le dépasse et pourtant en même temps qu'il accueille et dans lequel il se sent pas rejeté, pas étranger, mais qui le domine totalement et qui l'englobe totalement. Alors, quantité de textes, vous connaissez sûrement des tas d'histoires de gens qui ont vécu une expérience du lumineux, de transcendance, une expérience mystique. La nuit de feu de Blaise Pascal, la conversion de Paul Claudel, Edith Stein et tant d'autres, Eric Emmanuel Schmitt, sa nuit au désert. Je vous propose une situation que vous connaissez peut-être aussi, c'est celle de Didier Decoing. Je vous lis son témoignage. C'était un soir en se brossant les dents. Comme quoi. C'était un 8 septembre, il était 11 heures du soir. J'avais une chambre avec un petit lavabo dans notre maison de campagne. Il avait 22, 23 ans. Je me suis brossé les dents et soudain, j'ai eu l'intuition que Dieu n'existait pas. C'était tout le contraire d'une conversion. Je suis allé vers ma table pour noter cette idée, le temps d'arriver jusqu'à mon stylo, un renversement complet, indescriptible, s'est opéré en moi. Toujours sans rien voir, ni rien entendre, me vint la soudaine conviction, non pas par réflexion, mais par évidence aveuglante, que ce Dieu dont je croyais pouvoir démontrer la non-existence une minute plus tôt, existait, plus qu'il était vivant et créait entre lui et moi une relation d'amour. J'étais comme une femme enceinte la première fois que son bébé bouge. Je ne connais pas du tout cette expérience, je ne la connaîtrai jamais. Il n'y a qu'une moitié de l'humanité qui peut la faire. La femme, à ce moment-là, sent la vie en elle. C'était une joie brûlante, inhumaine, trop grande pour que je puisse la contenir, la tolérer. Ce trop-plein de jubilation m'a mis physiquement par terre. Il y a quelque chose d'intolérable en Dieu. Je ne savais pas encore trop de quoi ni de qui il s'agissait. J'ai passé une nuit entière dans cet état d'intensité. Et puis, le jour s'est levé et je me suis dit, il fait Dieu. Admirable. On sait aussi que quelques mois avant de mourir, saint Thomas d'Aquin, cet illustre représentant, s'il en est, de la voix cataphatique, celle du dire, du parler, qui a écrit la somme théologique, etc., à la fin de sa vie, il n'écrit plus, c'est comme si il balayait tous ses ouvrages, et comme son secrétaire s'en étole, il lui répond « Je ne peux plus. Tout ce que j'ai écrit me paraît comme de la paille en comparaison de ce que j'ai vu. » Et il venait de faire une expérience mystique en célébrant la messe. Il meurt quelques mois après. Explorons plus avant cette voie d'accès à Dieu qui n'emprunte pas les mots. En langage technique savant, apophatique sont les mots. Faire l'expérience de Dieu. Petite remarque tout de même, dans l'expression en français, moi-même, je considérais souvent, il y a quelques années, j'espère que j'ai changé de point de vue, enfin, ou j'ai découvert un autre, je considérais faire l'expérience de Dieu, c'est moi qui fais l'expérience de Dieu. Je suis le sujet maîtrisant les choses. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a là une grave méprise. L'expérience, elle est de Dieu. Quand je dis faire l'expérience de Dieu, c'est faire son expérience à lui, plus que la mienne dont il s'agit. Je dois me soumettre à son expérience. Je n'ai pas la mainmise là-dessus. S'agissant d'une expérience vécue, bien entendu, le lieu, si on peut dire cela comme ça, de la rencontre est forcément l'homme lui-même. Ceci dit, Dieu étant partout, c'est évidemment partout qu'on peut le rencontrer. Il suffit de le chercher ou même simplement de se tenir prêt. Je ne peux pas ne pas penser à ce petit passage, cette petite phrase de Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez éveillés, soyez attentifs. Cependant, le frôlement du divin a plus de chances de se produire dans certaines circonstances, dont il convient de souligner tout de suite que nous ne sommes absolument pas maîtres. Plusieurs auteurs ont élaboré des listes de situations plus favorables que d'autres, apparemment, de l'expérience humaine, à une rencontre. Ce n'est pas parce que je vais me mettre dans une situation comme ça que la rencontre va se produire, bien entendu. Alors, chez tous, ces listes sont un petit peu différentes, chez tous, il y a quand même la rencontre amoureuse, qui est un moment magique qui permet de s'ouvrir au-delà de soi-même, à autre que soi-même. Il y a aussi la plongée en pleine nature, et chaque fois, la caractéristique fondamentale, c'est qu'on s'ouvre à autre que soi. On est débouclé de soi-même, on est peut-être cassé même de soi-même, et on s'ouvre à autre chose. En particulier, évidemment, dans l'épreuve de la souffrance, dans la mort, pas nécessairement la nôtre, mais la mort imminente, celle de quelqu'un d'autre, qu'on accompagne. C'est un moment poignant qui nous détourne de nous-mêmes, là aussi. L'impact de la beauté, une beauté irradiante, la petite voix secrète, et ainsi de suite. En toutes ces modalités possibles, la prière, le silence, la grâce, le choc, l'expérience de Dieu conduit à une certaine connaissance de lui, une connaissance que l'on peut qualifier de spirituelle. Quelles en sont les caractéristiques? La première caractéristique de l'expérience spirituelle est que, évidemment, étant une expérience vécue, elle est liée intimement à la vie. Ça ne passe pas par le cerveau, ça ne passe pas par l'étude, ça ne passe pas par ce qu'on a entendu dire. C'est aussi un cadeau. Ça ne dépend absolument pas de nous. Ce n'est pas le fruit direct de nos efforts. Henri Susso conseille, ah, c'est dommage, je n'ai pas pensé que vous seriez plus bas, reste bien établi en toi-même jusqu'à ce que tu sois enlevé à toi-même, sans toi-même. Il y a un effort, il y a une part d'effort, mais il y a un autre. Les rencontres qui ouvrent sur l'être sont surprenantes et se produisent à l'improviste. Ce sont de parfaits cadeaux. La connaissance de Dieu que l'on trouve dans la beauté, dans l'épreuve, dans l'amour, de même que celle que l'on trouve en Jésus d'ailleurs, résulte aussi d'une relation, et une relation concrète. Ça signifie que ce ne sont pas des connaissances théoriques, ce sont des connaissances par participation, non pas comme observateur, mais comme participant. C'est très différent de regarder un match de foot ou d'y jouer. C'est très différent de lire des romans d'amour ou de tomber amoureux. C'est toute la nuance. J'ose pas trop dire, c'est un peu choquant, mais j'avais un ami prêtre, quand on lui disait « Ah oui, moi je suis croyant non pratiquant ». Et lui, il avait une réponse toute faite, il disait « Oh tiens, c'est comme moi, je suis nudiste non pratiquant ». Par la suite, si j'ai rencontré le divin à travers une expérience de ce type-là, il y a un côtoiement, il y a un compagnonnage nécessaire, requis. Même pas requis, même pas exigé, on a envie de connaître davantage celui qui s'est manifesté de cette façon-là à nous. On a envie d'en savoir davantage. On va le fréquenter. Et là, je pense à Pierre, quand Jésus demande qui est-ce que les gens disent que je suis? Alors les disciples répondent, Élie, etc., un grand sage. Et puis il dit à un moment donné, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, le Christ de Dieu. Alors c'est une parole étonnante, Pierre est un homme simple, c'est un pêcheur de poissons, donc un culte, je ne sais pas s'il savait lire et écrire, et il dit le Christ de Dieu. Il a bien sûr dû être inspiré, mais il a aussi certainement, contrairement à la foule qui dit des choses assez éloignées, il a dû aussi percevoir quelque chose par transfusion, à force de côtoyer le Christ, même sans qu'il parle, à force de marcher avec lui, de le sentir. Celui qui a connu des instants lumineux a la conviction d'avoir été effleuré par le souffle de la vérité. Je crois qu'il y a Victor Hugo, je ne vais pas trop m'étaler, sinon je vais dépasser le temps. Il y a Victor Hugo qui a cette pensée, cette phrase, où il dit « On ne peut pas avoir été frôlé par la beauté sans croire avoir été frôlé par Dieu » ou quelque chose de ce genre. Cette vérité-là, Lélie, on va parler de vérité hier aussi, n'a rien à voir avec une vérité sensorielle, même si le corps peut participer. La vérité sensorielle se cantonne à la surface des choses. En nous appuyant sur nos organes des sens, nous ne pouvons parcourir que le monde de la matière. Et les vérités sensorielles sont par nature changeantes, passagères, limitées. L'arc-en-ciel a une position différente selon l'endroit que j'occupe dans l'espace. Il est toujours là, mais c'est comme s'il se déplaçait. Mais c'est moi qui me déplace. Donc c'est par rapport à moi, il y a quelque chose. Les vérités que l'on peut mettre en évidence grâce à l'intelligence, ensuite, semblent plus fermes. Et elles le sont, jusqu'à un certain point. Car les scientifiques, on l'a vu, je pourrais expliquer davantage, considèrent qu'aujourd'hui, ils arrivent à des zones de flou où, comme le disait Despagna, aucun instrument ne permettra d'explorer plus avant la réalité dans son intimité ultime. C'est comme si les particules étaient à la frontière entre l'espace et le temps. Dans l'espace, hors de l'espace, dans le temps, hors du temps. Quelque chose qui, forcément, puisque nous sommes inclus dans l'espace et le temps, on ne peut pas mettre la main en dehors, on est Kant, hein, les a priori. On est enfermé dans l'espace et le temps, on ne sait pas sortir, que ce soit par la pensée ou physiquement. On est incapable d'accéder à cette réalité ultime, le réel voilé. La vérité qui se dévoile dans les moments étoilés de l'existence n'a rien à voir avec une vérité matérielle ou intellectuelle. La vérité qui transperce le cœur d'un homme dans ses moments de grâce est une vérité d'être. Elle est ontologique. Elle ne parle pas d'abord au cerveau, mais à l'être. Elle ne transite pas par les sens ou par la réflexion, mais par le souffle en l'homme. Elle ne se goûte pas par la bouche, les oreilles ou le nez, mais par le dedans et le fond de soi-même. Là, je mets à contribution Henri Le Sceau, mystique s'il en est, chrétien, mais qui est allé rejoindre, j'oublie son nom, un père français et qui a vécu tout le restant de sa vie jusqu'à sa mort en Inde. En ces moments où cette vérité, au-dedans, est éveillée par un événement du dehors, l'être reconnaît les contrées dont il est issu et où sa soif véritable est de retourner. C'est cela, la vérité spirituelle. Une vérité qui est dévoilement de ce dont nous sommes déjà porteurs. Une vérité que l'on ne possède en rien. Une vérité, au contraire, devant laquelle on s'incline. Numen, numinis, numen signifie incliner la tête avec un sentiment d'effarement, devant la majesté, même s'aplatir, Didier de Coin, il s'effondre. Et on s'y incline avec une espèce de joie mêlée d'effarement. Le vrai rôle d'un vrai maître est de témoigner de cette vérité. À Pilate, qui l'interroge sur ce qu'il est, Jésus répond « Pilate, homme du monde, je le vois d'ici, lève les yeux au ciel, hausse les épaules, dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Il voit évidemment, il entend des choses au niveau sensoriel, intellectuel. C'est quoi la vérité? Chacun a sa vérité. C'est quoi? Dans le christianisme, la vérité est une personne. Hallucinant comme phrase. Ou bien il est fou. Je suis la vérité. Comment est-ce qu'on peut dire je suis la vérité? Je suis le chemin. Je suis la vie. Ou bien il est fou, ou bien c'est qu'on a à entendre quelque chose et peut-être passer du temps pour s'approcher de cette vérité-là, qu'il est. Le maître véritable renvoie le disciple à la vérité qui gît en lui. Être disciple, c'est entendre à l'instigation du maître le dépôt confié à la mémoire de son être et chercher à y conformer son existence. Je crois qu'il y a un hadith sacré qui dit, mais qui est discuté, je crois, dans l'islam, qui dit j'étais un trésor caché qui aspirait à se connaître et à se faire connaître, à travers les hommes, bien entendu. Je crois qu'il est discuté au niveau. Enfin bon, peu importe. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous avez vu le sceau, ici? Pas encore? Oui. Je le repasse? Non, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est ça? Voilà, d'accord. La vérité cachée dans les profondeurs du cœur. Le cœur, dans la tradition chrétienne, ce n'est pas le cœur de chair, bien entendu. Ah, c'est mon dada, il y en a qui m'ont déjà entendu des centaines de fois là-dessus, presque. Ce n'est pas le cœur affectif, bien entendu, non plus. C'est le centre de l'être, ce que Durkheim appelle le centre de l'être. L'être, je ne sais pas ce que je dis quand je dis l'être, je ne sais pas. Mais c'est là. Alors, les Japonais disent le hara, c'est ici. Que c'est... Bon, on ne va pas chercher à localiser. Je repasse là, désolé. La vérité est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En révélant le secret de son être, Jésus a révélé le secret de chaque être. Chacun est lourd, au-dedans, d'un secret essentiel du mystère de l'être. Du mystère de l'être. Nous participons de l'être. Parménide, il y a de l'être. Et j'en suis. Entendre une vérité de cette sorte est révélation d'un être à lui-même. Et ceux qui l'ont reçu en ont été transformés, libérés même. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, cette vérité-là, vous libérera, vous affranchira, vous détachera. Autrement dit, une vérité essentielle, ontologique, spirituelle, est une nourriture véritable. Ces vérités, ces découvertes spirituelles sont fondatrices ou refondatrices de l'être. Elles sont vivifiantes. Quand on expérimente un amour authentique, une vérité essentielle, on respire plus large, plus haut, plus profond. Une découverte spirituelle est une sève qui alimente la vie. Et elle ne s'affaiblit pas avec le temps. Elle est éclairage épanouissant dès le moment où elle apparaît et elle le reste. Son pouvoir de transformation demeure. On peut s'y raccorder, s'y référer par la suite. On peut pas reproduire l'expérience, mais on peut s'en ressouvenir. Pour le chrétien, Jésus est simultanément visage du Père et chemin vers lui. Il concentre en lui toute la connaissance qu'un être humain peut avoir du Père. Et c'est là une spécificité du christianisme. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et lorsqu'on scrute le Christ, lorsqu'on le lit, lorsqu'on part à sa recherche, et là on a des choses matérielles qui nous permettent de le faire, on a des textes, on a des gens qui nous ont précédés, on a les textes sacrés bien entendu, lorsqu'on scrute le Christ, on devine, au bout d'un certain temps, même assez vite, on devine une certaine couleur, on perçoit une direction particulière, un parfum, une réalité se dessine qui comporte plusieurs facettes. Quelle est l'image de Dieu que nous pouvons entreapercevoir, lire à partir du Christ? La première caractéristique, bien entendu, c'est l'amour. la tonalité typique du christianisme, c'est l'amour. Je ne dis pas que les autres n'en parlent pas, mais c'est très typique au christianisme. Et l'amour ici n'est pas un attribut de Dieu parmi d'autres, c'est son signe distinctif. Jean dit, de nouveau il faut peser les mots, Dieu est amour. Donc celui qui est dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dans l'amour, il y a de l'autre. Le mouvement de l'amour est allocentrique, tourné vers l'extérieur, vers les autres, et la nature de l'amour est orientation vers autre que soi. À nouveau, Henri Le Sault. Qui rassemble l'altérité dans les deux directions, verticale et horizontale, les deux directions de la croix, l'autre père et l'autre frère. Une deuxième caractéristique, le Christ le dit, et nous propose la même chose, c'est la filiation. Le chrétien se découvre fils d'un père non biologique, au-delà de son père terrestre, lui est apparue une filiation plus essentielle, un père primordial de qui il reçoit l'être et la vie. C'est du latin en finale. Le Christ est essentiellement l'éveil de l'homme à son origine apatrée depuis le Père. À son origine apatrée. Ce Père, qui nous engendre comme fils, ne se situe pas dans des hauteurs stratosphériques, il est au milieu de nous. Edith Stein et tant d'autres, et Thiel Le Soum, et encore ceux qui me reviennent, le disent de façon claire. Je rencontre dans mon être un autre être majuscule, qui n'est pas le mien, mais qui est le support et le fondement du mien, en soi inconsistant et instable. Au fond de mon être, là où je me rencontre moi-même, je puis par la foi reconnaître l'être éternel. Et Le Soum dit quelque chose d'exactement semblable. Il dit, là au fond de moi-même, c'est Dieu. Ce que je rencontre, c'est Dieu. Quatrième caractéristique que l'on lit, que l'on voit à travers le Christ, si on est chrétien, c'est que on peut trouver non seulement Dieu en nous, mais nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son image a été déposée en nous. Et cela concerne pas seulement nous en tant qu'individus, mais bien plus encore l'humanité considérée dans son ensemble. Grégoire de Nyssa, théologien et père de l'Église, j'ai rajouté, c'est toute la nature humaine, s'étendant du début à la fin de l'histoire, qui constitue l'image unique de celui qui est. Un rabbin à qui ses disciples demandaient, ses élèves demandaient, mais la raison de la diversité des êtres humains répond parce qu'ils sont tous à l'image de Dieu. Cinquième caractéristique, l'union. L'amour est force d'attraction et propension à l'union. Le lien à Dieu, ce fondement de l'être, est porté à son plus haut degré dans le Christ, qui unit en lui les deux natures, divine et humaine. Ainsi est-il l'icône parfaite de l'union, qui peut se dire avec d'autres mots encore, communion, unité, non-dualité, amour. Nous sommes sur le chemin de l'union, puisque déjà nous sommes à l'image de Dieu. Thomas Merton, qui est mort tôt, que beaucoup considèrent comme un des tout grands spirituels du XXe siècle, du siècle passé. reste à s'éveiller, comme il le dit. Reste à l'image, à progresser vers la ressemblance. Origène, commentant, un père de l'Église également, commentant ce passage, dit ceci. La ressemblance est donc à envisager dans une perspective eschatologique. Un mot un peu barbare. L'eschatologie, c'est ceci. Ce sont toutes les doctrines et les croyances qui s'intéressent au sort ultime, à la fin ultime de l'homme et du monde. Le retour au Père, à l'instar du Fils prodigue, est l'union à lui, est la destinée du chrétien, sa vocation, du latin vocari, être appelé. Il y a la racine vox, la voix, il y a vocation, invitation. C'est l'invitation qui est faite aux chrétiens. Et nous pouvons prendre cette invitation au sérieux, dès à présent. Mais il convient, ça va de soi, de chercher l'union à Dieu là où on a des chances de le trouver, c'est-à-dire là où il se trouve, c'est-à-dire encore dans le cœur. On connaît cette exclamation de saint Augustin, identifiant Dieu comme plus intime à moi-même que moi-même, et en même temps plus élevé. Tolère et bien d'autres vont dire des choses semblables. Bien évidemment, on est tous sur la même piste, on découvre, on fait les mêmes découvertes. Jean Tolère. Pourtant, nous savons bien que le Verbe éternel est au fond de notre être, si ineffablement près de nous et en nous, que notre être même, notre propre nature, nos pensées, tout ce que nous pouvons nommer, dire ou comprendre, tout cela n'est pas si près de nous et ne nous est pas si intimement présent que ne l'est le Verbe. Notez qu'il reste quand même, même si on est dans l'union, il reste une certaine distinction. Je ne suis pas Dieu, en d'autres termes. Je ne suis pas Dieu. Nous pouvons prendre cette invitation de Dieu au sérieux. Alors on peut le faire de deux façons. Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, d'accord, mais l'introspection, est-ce qu'une introspection bien dirigée, si je regarde à l'intérieur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Je ne suis pas sûr. Il s'agit de ressembler au modèle qu'est le Christ, et avancer vers l'union suppose une transformation. Une transformation. Et cette transformation doit s'opérer dans notre plus grande profondeur. Ce n'est pas une transformation en surface. On est au niveau de l'être. Il s'agit d'ontologie, on est au niveau de l'être. Comment est-ce qu'on peut se transformer à ce niveau-là de profondeur? Il semble bien qu'il n'y ait que deux grands chemins. Le premier, c'est le choc. On l'a vu, l'expérience de la mort, de la souffrance, de l'amour, c'est un choc. Ce choc peut être une remise en question. La question forte peut être une remise en question et peut être une circonstance qui est propice à faire une expérience de vérité et à en être transformé. Mais ces éclairs d'infini ne sont pas en notre pouvoir. Ça ne dépend pas de notre volonté. Donc là, on peut juste se mettre en circonstance peut-être d'ouverture, puis attendre, avec foi, espérance et amour. Les vertus théologales, celles qui conduisent à Dieu. Il y a heureusement une autre voie, un autre moyen qui, lui, est davantage sous notre pouvoir, en notre pouvoir. C'est l'immersion. Quelles sont les conditions extérieures et intérieures que les amoureux de Dieu ont mis en place afin de favoriser cette transformation? Parce qu'il y a, d'une certaine façon, à être actif. Il y a à s'exposer, d'une certaine façon. Donc je parle de cette immersion, pas du choc. Le choc, je n'en suis pas maître. Quels sont les paysages que ces mystiques ont explorés, ont vécu? Dans quel paysage est-ce qu'ils ont vécu? Première caractéristique, ils sont tous ancrés dans une tradition. Ils ont tous placé leur centre de gravité dans une tradition majuscule. Toute tradition majuscule est une bonne tradition. S'agissant de chrétiens, bien entendu, leur ancrage s'est plus particulièrement établi dans la vie et dans les paroles du Christ. Et ils disent avec Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pas besoin d'aller ailleurs, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. » Ça ne suffit pas, cet ancrage. Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, il y a une antienne liturgique qui décrit ce qu'il faisait. Il se tient nuit et jour, guettant le passage du Verbe, plus qu'un veilleur ne guette l'eau. Ça ne suffit pas. Ça ne semble pas suffisant. Il ne suffit pas de s'ancrer dans une tradition. Il y a d'autres choses qui sont nécessaires, en particulier solitude et intériorité. Thérèse d'Avila. Solitude et intériorité conjuguées. Entrer en soi-même et rester seul à seul avec Dieu. On observe chez les saints et les mystiques une tendance constante à se retirer, périodiquement ou durablement, loin de l'agitation et de la foule. Il trouve dans la solitude un apaisement des sens et du mental qui permet une lucidité salutaire. C'est quelqu'un de mon pays, Jan van Reusbroek, c'est un Belge, il vivait près de Bruxelles, Brunendal, c'est prêtre et puis moine, chanoine, et une petite communauté s'est formée autour de lui, dont il ne dirigeait pas, mais dont il était l'inspirateur. Mais de même que les textes à eux seuls sont insuffisants, la solitude également à elle seule est insuffisante. Je vais chercher une amma du désert. Donc j'ai beau chercher la solitude, le silence, je peux ne pas le trouver, parce que c'est aussi une attitude, il s'agit d'une attitude. Et tout comme je peux vivre dans la foule et être intériorisé, et être en silence intérieurement. C'est donc troisième élément qui vient compléter les deux autres, le silence permet aussi d'entrer dans l'œuvre de la transformation. Il ne suffit pas de se retirer du monde, il faut encore se retirer loin du bruit. Autant l'effervescence des mouvements extérieurs du corps que l'effervescence des pensées. Il y a lieu d'entrer dans le silence. On peut multiplier là, les citations, il y en a beaucoup. J'aime bien l'expression. Cesser de faire du bruit avec soi-même. Se perdre dans l'autre. Le silence d'un fin murmure ou le murmure d'un fin silence. Fais silence. L'oiseau s'échappe si tu fais le moindre bruit. Et l'on découvre alors, peut-être, parfois, que le silence qui semble a priori vide est en réalité rempli. Après 10 années de vie trappiste, Thomas Merton en arrive à ne plus attendre de réponse aux questions qu'il pose à Dieu, parce qu'il se rend compte que Dieu ne répond jamais aux questions, mais, je le lis pour ceux qui ne voient peut-être pas là, il y a plus de réconfort dans la substance du silence que dans la réponse à une question. Dans la substance même du silence. Autre élément qui vient compléter les précédents, on a du pain sur la planche, la transformation de l'être en vue de Dieu exige une simplification. Ici, c'est quelque chose d'actif. Silence, solitude, intériorité ont un côté plutôt passif. Ici, il y a quand même à mettre en œuvre concrètement un certain nombre de choses, c'est-à-dire un certain labeur. Mais c'est un labeur très étrange, puisque ça ne consiste pas à produire quelque chose, c'est un labeur qui consiste à enlever des choses, à se simplifier, à se désencombrer. Jean de la Croix. Simplification. Saint Vincent de Paul. La pauvreté consiste à ne désirer que Dieu seul. L'enfant est le modèle de la simplicité. Sans complexe ni complexité, il vit dans la simplicité, tout comme il est, dans l'instant. Redevenir enfant, c'est en finir avec les apparences, les illusions, le mensonge. Comme pour la vérité, il s'agit d'entrer dans la simplicité, entrer dans le silence, entrer dans la vérité, entrer dans la simplicité, ça revient finalement à entrer dans la réalité. Les grands mystiques sont de grands réalistes. Or, le petit moi n'aime pas la réalité, car justement, elle est sœur de la vérité, de la simplicité qui le démasque. Un père disait que l'intérêt du désert réside en ce que Satan ne peut pas s'y cacher. Dit d'une autre façon, quand je suis dans la nudité du désert, ça ne sert plus à grand-chose de me mentir sur moi-même, de me faire une image de moi, de m'illusionner sur moi-même. Tout ça est mis à bas les masques. Je suis face à moi-même dans la solitude. À quoi ça sert de jouer un rôle, de prendre des grands airs? Je suis nu. La nudité du désert me nudifie en quelque sorte. L'ego préfère l'illusion, le mensonge, la complexité. Il s'y sent protégé. Il peut s'y construire le monde de ses rêves, un monde où Dieu, c'est lui. Ainsi donc, entrer dans la simplicité, ou dans la vérité, ou dans le silence, ou dans la réalité, on peut dire que c'est synonyme, c'est entrer effectivement, j'insiste violemment, entrer effectivement en transformation. Quand de cette façon-là, je rentre dans le silence, je rentre dans la vérité, je rentre dans la simplicité, la transformation commence à s'opérer. Je ne sais pas où je vais, bien entendu. C'est là la porte étroite qui libère et ouvre sur un autre royaume. Il y a donc un nécessaire abandon à travailler. Les chercheurs de Dieu se détournent donc du menteur qui est en eux. Ils abandonnent leur fond propre en vue d'une union plus essentielle que celle qui les relie à eux-mêmes. On connaît aussi cette superbe prière, acte d'abandon du père Charles de Foucault, je n'en mets que le début. « Mon Père, je m'abandonne à vous, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi et dans toutes les créatures. » Il y a même à délaisser l'idée que nous nous faisons de Dieu. Il fallait quand même que je le cite, lui. Vous n'avez pas eu le temps ? Sorry. Je reviens. Donc il y avait celle-ci. Les images de Dieu sont des dieux. Une image de Dieu ne nous conduit finalement qu'à contempler une image réaménagée de nous-mêmes. Ah oui, c'est un peu court. J'ai essayé de minuter pour rester dans les temps. Je vois que je suis déjà hors des temps. C'est extrêmement difficile de minuter. J'avais fait le double en réalité. J'avais fait 50 pages, je suis à 20. Dieu est grand. Okay. Et donc, il s'agit d'une espèce de mort. Le mot fait peur. L'abandon complet est une mort, au sens psychologique, bien entendu. Ce que les premiers chrétiens ont appelé le martyr blanc, ceux qui allaient dans le désert, par rapport à martyr rouge par le sang, on meurt quelque part. Le mot fait peur, bien entendu. Il y avait cette grande injonction des pères, meurs, meurs, et deviens. Il y a la suite, bien entendu, qui ouvre. Et c'est à ça que c'est destiné, bien entendu. Ici, il s'agit de mourir au monde. Dans un livre, le seul livre connu d'elle, Marguerite Porret, une femme qui a été mise sur le bûcher, on est à l'époque des béguines, elle était amoureuse de Dieu, comme toutes ces femmes. Oh, je ne vais pas trop m'étendre, sinon je vais de nouveau rallonger. Marguerite Porret, elle a une phrase fulgurante. Merveilleux. La mort, ce n'est que le dernier cri du quant à soi. Quelle belle phrase. Et donc, cette mort n'est pas un rejet de quoi que ce soit. Elle n'est pas mépris non plus. Elle n'est pas indifférence. Elle est détachement par focalisation sur autre chose que soi-même et le monde. Il s'agit d'un déplacement du regard qui, d'égocentré, devient allocentré. Ou théocentré. La mort à soi s'apprend notamment dans les morsures de nos frictions avec les autres et avec le monde, mais aussi elle peut procéder d'un mode de vie délibérément choisi. Abba Antoine, un père du désert, le tout grand, le père de tous les moines. Je le lis. Mourir à soi rend nécessairement humble, dernière caractéristique de ces chercheurs de Dieu, l'humilité. L'amour se développe dans l'humus de l'humilité. Et l'humilité ne grandit qu'à la mesure de la décroissance du moi. Cette bonne terre qu'est l'humilité ne résulte pas d'un choix mental, elle est le fruit d'un combat. C'est lorsque le cœur a été brisé et qu'il oublie de s'en plaindre qu'il devient ouvert. C'est lorsque le petit moi a été détrôné et piétiné et qu'il ne cherche plus à se venger, qu'il s'attendrit. Dans cette perspective, l'échec peut être le plus grand succès de notre existence véritable sur une existence qui ne l'était pas. La souffrance peut déboucher sur une plus grande conscience que la vie est précieuse. La blessure peut creuser en nous une plus grande indulgence, parce que toutes ces situations peuvent être des occasions, je ne dis pas que c'est automatique, de nous détacher de nous-mêmes, donc de grandir spirituellement. Simone Veil a une phrase terrible à ce sujet. Toute douleur dont le résultat final n'est pas un détachement est une douleur perdue, inutile. C'est une souffrance pour rien. La mort, toutes les morts, creusent un espace vide en nous, un espace de disponibilité où la vie peut s'engouffrer. Mourir, j'ai anticipé, c'est renoncer à soi-même afin de renaître à un autre. Meurt et devient. Car c'est seulement en mourant, en faisant effectivement à travers ces circonstances de peine, d'échec, de souffrance, en faisant effectivement l'expérience de la mort, que l'on peut découvrir que la mort n'existe pas, que nous restons vivants, que la vie ne nous a pas désertés pour autant, que l'on peut recommencer, que l'on est peut-être débarrassé d'un encombrant, d'un inutile, d'un attachement qui nous aveuglait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Marcel Legault a une phrase aussi extrêmement forte, il dit « La nécessité de la mort n'est pas biologique, elle est spirituelle. » Il faut accepter les morts. À nouveau, il s'agit d'entrer dans la mort, dans les morts qui se présentent à nous, parce que les morts auxquelles nous parviendrons à consentir laisseront peu à peu place à l'image première, à l'être véritable que Dieu a déposé en nous en même temps que la vie. Ici, je vous avais préparé une petite séquence vidéo de 3 minutes. Est-ce que je peux continuer? Je vois que je dépasse le temps considérablement. Je peux continuer? Oui? Ah, d'accord. Astucieux, c'est bien. C'est bien. Donc, je fais une petite pause, je change d'écran et je vous dis le contexte quand même. Donc, on se trouve dans le nord de l'Égypte, le désert du Wadi Natroum, qui était le désert de Sété, où les premiers moines se sont... Enfin, parmi les premiers moines se sont installés au 4e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, notamment Saint Macaire, qui a été un grand maître spirituel, et il y a eu une pépinière là. Et les apophtègmes datent de cette époque, et ses pères ont leur rendu visite, les disciples venaient toujours avec la même question, dis-nous une parole, et ça donnait on les a consignés par écrit, ça donnait les apophtègmes. Et donc dans ce désert, il y a eu 2 formes de vie monastiques, cénobitique donc en communauté, ou érémétique solitaire. Donc les 2 étaient mélangés. Donc Saint Macaire, avec le temps, cette vie monastique s'est un petit peu endormie, elle a disparu. Et puis il y a depuis 40 années un renouveau sur les lieux mêmes. Donc le monastère Saint Macaire a été reconstruit. On a retrouvé des traces assez réduites. Et maintenant c'est quelque chose de gigantesque. Je crois qu'il y a 160 moines actuellement, des moines coptes. Coptes signifie égyptien. Donc les coptes sont des chrétiens égyptiens. Alors, dans ce monastère, il y a eu un renouveau, et quand même, quelques ermites sont restés à proximité du monastère. Il y en a 7 à l'époque du documentaire, dont un qui s'appelle Abamina, et qui a été un des ermites qui a accompagné l'ermite qui a impulsé le renouveau. Mata el Maskin, Mata le pauvre. C'est lui qui a redynamisé cette vie monastique qui datait de Saint-Macaire. Et un des ermites, un de ses compagnons, vivait encore à l'époque de ce documentaire. Et c'est ce Abamina que le journaliste est allé interviewer pour lui demander « Qu'est-ce qu'on trouve au désert, finalement ? On trouve quoi ?»
À une faible distance se trouve la grotte du père Mina, le premier compagnon du père Mata el Maskin, l'un des 7 ermites du monastère Saint-Macaire. Il vit ici à la manière des premiers moines du désert.
يتعلمه الإنسان في البرية
أن يكون له حب صادق مع المسيح
دوار نعمور authentique, sincère envers le Christ.
Et quelle expérience de Dieu fait-on?
ما هو الاختبار الذي يختبره عن الله في البرية؟
هو اختبار الصداقة الشخصية الحميمة بالرب يسوع نفسه.
On fait l'expérience de l'amitié personnelle, intime avec la personne du Seigneur Jésus.
هو إحساس داخلي بعشرة الرب، إحساس داخلي واضح جدا بعشرة الرب.
Le sentiment intérieur très réel, très vécu de l'intimité avec le Seigneur. Je suis avec vous.
Merci.
Un regard fondant. Abamina. Je ne me sens pas capable de vivre comme lui. Alors je me pose la question. Je pense que Dieu intime, c'est pour nous et c'est aujourd'hui. Si j'en crois, d'autres grands noms avant moi, Siméon, le nouveau théologien, qui insiste et qui dit à quel autre moment, sinon maintenant, recevras-tu la semence ? Aujourd'hui, décide-le, tu es mort. Aujourd'hui, tu as renoncé. Aujourd'hui. L'union à Dieu ne nécessite pas d'être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Là, maintenant, il n'y a rien à faire pour mériter d'être aimé. Dieu intime, c'est pour nous aujourd'hui et c'est aussi très exactement là où nous sommes. Élisabeth de la Trinité, presque en écho. On pourrait continuer la phrase. Fleuris là où tu es semé, en une sorte de communion continuelle, tout simplement en faisant tout sous son regard. On connaît le surnom qu'on a donné à Thérèse de Lisieux, la sainte des petits chemins, parce que justement, elle faisait tout. Les petites tâches quotidiennes avec le plus grand amour. Ça l'a conduit à la sainteté. Je pense qu'il y aurait une sorte de désacralisation de la mystique à opérer, une espèce de démocratisation, si on peut dire, de la mystique, et de dire il y a une mystique proche, une mystique du quotidien, une mystique de l'ordinaire, et je dis ça sans mépris, une mystique pour les petits, pour les petites choses, pour nous, en quelque sorte. Chaque mouvement sincère. Ah non, pardon, j'oublie une citation importante de Marthe Robin à propos des petites choses. Elle dit « Il y a rarement de grandes choses à faire. Il y en a beaucoup de petites. Et là, il faut être ambitieux pour les petites. » Chaque mouvement sincère vers Dieu est moment d'intimité avec lui. Comment dire autre chose ? Chaque instant où nous tournons vers le ciel est un instant où notre cœur se souvient de lui et consent à lui, si peu que ce soit. Alors, la méditation. La solitude, le silence, la simplicité, l'humilité, l'abandon de l'ego, au bout du compte, est-ce que c'est pas ce que nous pratiquons dans la méditation ? Est-ce que nous ne considérons pas la méditation comme un moyen, non de bien-être, mais comme avec une visée spirituelle de transformation, un chemin de renaissance en Dieu, par le Christ, dans l'esprit. N'entrons-nous pas, nous aussi, dans ces mêmes lieux que fréquentent les mystiques et les saints? Voyons voir. Solitude. Vous le savez, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Méditer, c'est évidemment se recueillir, c'est se retirer dans l'intériorité, seul, même à plusieurs, mais c'est s'intérioriser. On fait silence du corps et du mental. On essaie de faire silence. Il y a une forme de travail, d'ascèse, askésis en grec. C'était les exercices que les athlètes des Jeux Olympiques, la vie d'exercice qu'ils pratiquaient en vue des Jeux Olympiques. Askésis, une vie d'ascèse. Donc pas du tout avec la connotation souffrante, etc., avec la connotation on va arriver, on va réaliser quelque chose. On est dans une œuvre de transformation, c'est dynamique. Deux fois par jour, en principe, c'est ce que John Mann nous suggère. Il dit, c'est mieux, si vous ne pouvez pas le faire, tant pis, hein, faites 3 minutes, c'est mieux que rien du tout, mais c'est mieux deux fois une demi-heure, et vous ne faites que 20 minutes, ça va. Mais après 20 minutes, on constate d'expérience qu'on rentre mieux dans le silence. Donc deux fois une demi-heure, une fois le matin, une fois le soir. Simplicité, ben oui, un seul mot, celui-là tout le temps, rien que celui-là. Quoi de plus simple? Un mot, rien d'autre. Nudité presque. Et une forme de mort ou d'abandon de toute pensée, de toute image, de tout désir, de toute attente, de quoi que ce soit. Il le dit d'ailleurs, John Mayer, hein, c'est une forme de mort. Méditer, c'est s'exercer à se déprendre de soi-même, c'est se placer en condition de retrouver la mémoire enfouie de notre être. C'est commencer à dénouer les liens qui nous retiennent de nous envoler vers notre image véritable. Lâcher l'oiseau, ouvrir les portes de la cage. Méditer, c'est tenir ensemble les deux termes de ce paradoxe. Dieu est radicalement autre, on l'a vu tout au début, le tout autre, et saint Augustin, plus intime à moi-même que moi-même. Que ce soit par le retrait au désert des mystiques, je termine, ou par la méditation, avancer vers l'union à Dieu est une question de vase communicant. Saint Augustin emploie plus d'une fois cette comparaison du croyant avec un vase, j'en prends deux. Vase communicant. Qu'il faut vider pour pouvoir le remplir d'autres choses. Beaucoup d'autres, à sa suite, reprendront cette image au cours des siècles. Et ainsi de suite. C'est leur expérience. On peut leur faire confiance. C'est là que c'est intéressant de s'inscrire dans une tradition, c'est qu'on peut s'accrocher à d'autres. Dès lors, pardon, j'oublie alors Maître Eckhart, encore je voudrais ne pas trop vous importuner et terminer, j'oublie Maître Eckhart qui dit aussi quelque chose de très étonnant. Je lis, là où est le moi, Dieu ne peut pas entrer. Là où il n'est plus de moi, j'ai pas pu lire la suite. Il dit donc que Dieu est en quelque sorte obligé de venir si je fais le vide. Vase communicant, comme une pompe. Si je fais le vide, il ne peut pas faire autrement que de venir. Bien entendu, c'est sa liberté. Dès lors, le degré d'intimité que nous aurons avec Dieu ne dépend plus que de nous. Et la question de l'intimité avec lui se ramène à celle-ci, mais rassurez-vous, je me la pose bien sûr à moi-même d'abord et avant tout. Dans quelle proportion l'amour que j'ai pour Dieu est-il plus important que l'amour que j'ai pour mon ego? On le sait, en grec comme en latin, ego, c'est la conjugaison en première personne du singulier de l'indicatif présent, du verbe être, etc. C'est je suis, ça veut dire je suis. Qui est le je suis en moi? C'est quel je suis? Le petit ou le grand? Heureusement, nous avons le temps d'une existence pour réaliser cette transformation, que ce soit par le retrait au désert ou par la méditation, l'union à Dieu, qui est la vocation du chrétien, n'est pas et ne peut pas être un événement ponctuel. Il s'agit d'un processus qui n'aura de fin qu'en Dieu lui-même. Ouais, c'est un peu compliqué, j'aurais pu me passer coextensif. Okay. C'est-à-dire on n'a pas de fin. On va vers l'infini, forcément, la marche est infinie. Ou indéfini, il n'y a pas de fin. Ça ne se termine que dans le grand face-à-face, le grand passage. Nous sommes en effet dans l'univers qui est fait, on le sait, d'espace et de temps, quatre dimensions, trois d'espace et une de temps, on ne peut pas échapper à cela, ce qui entraîne que tout ce que nous pouvons vivre, apprendre, faire ou être ne peut échapper à ces dimensions, et donc que tout est processus, y compris dans le domaine spirituel. Je termine par Angelus Silesius, le pèlerin chérubinique. L'incarnation se déroule encore aujourd'hui. L'incarnation est un processus qui a été initié il y a 2000 ans et qui se continue encore aujourd'hui pour nous et maintenant.